The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, c'est Série Folie qui débarque pour le deuxième épisode de la saison 5 avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
On va vous parler série télévisée. Avec une petite entorse à la règle habituelle de revue de nouveautés. Aujourd'hui, on va parler Emmy Awards.
Oui, j'avais dit que la première partie de l'émission était un petit peu changée par rapport à la formule habituelle. C'est-à-dire que si j'ai pas du tout de nouveautés intéressantes à mettre sur la table, eh bien on parlera simplement de quelque chose d'autre de plus passionnant. En l'occurrence, cette semaine-ci, il me semble que les nouveautés vraiment que j'ai vues, c'était The Orville et American Vandal, et ni l'une ni l'autre ne m'ont paru suffisamment intéressante pour leur consacrer le moindre temps. Donc voilà, on va parler plutôt des Emmy Awards, puisque la cérémonie a eu lieu il y a à peine quelques jours, et c'est le bon moment peut-être pour revenir sur les séries qui ont été récompensées, dire ce qu'on en a pensé, et puis surtout voir dans quelle dynamique elles s'inscrivent, et ce sera d'ailleurs ce qui entamera le sujet de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'utilité sociale des séries, et est-ce que c'est un critère suffisant pour estimer que nous avons affaire à une bonne série que de dire qu'une série parle de sujets importants et graves, et que donc forcément il faudrait l'avoir vue. Voilà.
Voilà, ok, bien on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à en dire justement ?
Alors, la raison pour laquelle ce sujet-là vient sur la table, c'est parce que certains l'ont souligné, même si pour d'autres, ça a été aussi pour dénoncer le fait qu'on n'y était pas encore non plus tout à fait, mais malgré tout, beaucoup d'observateurs de la vie télévisée américaine, on va l'appeler comme ça, ont souligné le fait qu'il y avait quand même une assez grande place accordée lors de ces remises de prix-ci aux séries qui soit abordent des thématiques très très... C'est pas tellement politique dans le sens où on peut entendre la politique, mais c'est plus au niveau sociétal qui mettent sur la table des sujets lourds et qu'il serait temps de prendre en ligne de compte comme la place des... Alors, on les appelle toujours les minorités, mais on sait combien ce mot-là en lui-même peut être problématique. En tout cas, au minimum, les personnes de couleur différentes, les femmes, etc. Toutes ces catégories de la population qui... par le fait de certains mécanismes sociaux se retrouvent dans des situations dominées par rapport à d'autres catégories sociales, et donc on met pas mal en avant comment, enfin, ces mécanismes-là, comment ça marche. Pour le moment, dans les séries, c'est quelque chose qui marche en plein. Et donc, c'est normal aussi qu'on en retrouve énormément dans les séries qui sont récompensées. En l'occurrence, cette année-ci, la série qui a été vraiment la plus récompensée, c'est The Handmaid's Tale. Je sais que tu avais été plutôt refroidi par cette série-là qui est assez dure à regarder, mais qui, ouais, c'est vrai, traite des risques qui continuent à peser sur la condition des femmes de manière justement assez parlante, quoi. On est dans un univers dystopique, c'est vrai, et donc on n'aborde pas la situation des femmes aujourd'hui, mais au minimum ça met un petit peu la puce à l'oreille de se dire rien n'est gagné et on pourrait faire des retours en arrière bien imprévu pour les personnes qui n'ont jamais vraiment vécu dans une situation où les femmes étaient vraiment considérées comme des sous-humains. La plupart des gens qui aujourd'hui regardent les séries ont eu la chance de vivre de naître dans un monde où les femmes commençaient à avoir des droits, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Eh bien, là, on nous rappelle que il manquerait pas grand-chose finalement pour que ces droits-là, on nous les enlève. Donc sur ce sujet-là, c'était intéressant. Alors quels sont les prix que cette série a raflé? Notamment le prix de la meilleure série dramatique. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment elle a été le plus mise en avant. Et puis son actrice principale, Elizabeth Moss, qui a obtenu le prix de la meilleure actrice, ainsi que un rôle secondaire, celle qui jouait la tante Lydia, qui a également reçu le prix de la meilleure actrice dans un rôle secondaire, qui s'appelle Anne Down. Donc il y a ces trois-là, plus encore deux autres, puisque en tout, elle en a eu cinq. Ça, c'était pour les séries dramatiques.
Oui.
Du côté des séries, des mini-séries, ou ici, ils disent séries limitées. reste à savoir ce que ça veut dire.
Exactement,
hein. On comprend de moins en moins, surtout qu'on a quand même entendu pas mal de rumeurs disant que finalement, elle allait revenir et tout. Donc, on ne sait plus trop quoi. Mais toujours est-il que c'est Big Little Lies qui, elle aussi, a raflé 5 prix dans cette catégorie-là. Notamment, donc, la meilleure série limitée, la meilleure actrice, Nicole Kidman. Bon, elle avait tellement été citée qu'il n'y avait pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Alexander Skarsgård, qui jouait son mari, a également reçu une récompense pour le meilleur rôle secondaire masculin, ainsi que Laura Dern pour un second rôle féminin. Et puis en plus, il y avait aussi un prix pour la réalisation. Je ne me souviens plus si c'est la série en entier ou un épisode en particulier. Enfin bref, toujours est-il donc que cette série-là aussi mettait quand même beaucoup l'accent sur la question, sur des questions sociétales. Ici, en l'occurrence, la violence faite aux femmes à travers à la fois la question de la violence domestique et la question du viol. Donc, à nouveau, on retrouvait mis en avant et plutôt valoriser les séries qui portent des sujets sociétaux lourds et remplis de sens et de messages pour l'ensemble de la société, quoi. On essaie de donner vraiment aux séries et j'imagine, enfin, j'allais dire à la fiction dans son ensemble, sauf que c'est vrai qu'on le demande peut-être moins maintenant d'autres fictions auxquelles on le demandait avant, comme au cinéma par exemple. Je suis pas sûre qu'il y ait encore une telle exigence dans les récompenses du genre les Oscars ou quoi à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est du côté des séries, c'est très clair qu'on a mis l'accent là-dessus, sur le fait qu'il fallait que les séries s'empare de sujets graves, reflète les problèmes de la société et tente de sensibiliser le public le plus large à cette problématique-là. Donc, c'est vraiment un discours qui est en vogue actuellement. D'ailleurs, il me semble que ça fait déjà un petit temps qu'on en parle dans cette émission-ci. Ce n'est pas la première émission qu'on fait à ce sujet-là. Alors, parmi les autres récompenses qui ont également attiré l'attention, ce sont surtout des récompenses qui ont été données à des personnes justement de couleur, hein, c'est-à-dire d'origine afro-américaine ou bien d'origine asiatique parfois, et donc qui avaient l'aspect remarquable souvent d'être la première personne de cette origine-là à recevoir cette récompense-là. C'est notamment le cas de Donald Glover qui, pour sa série Atlanta, a reçu autant le prix du meilleur acteur dans une série comique que, me semble-t-il, le prix du meilleur réalisateur ou créateur. Enfin, scénariste ou je sais plus, un des deux. Toujours est-il que là, c'est une personne afro-américaine donc qui est récompensée deux fois et c'est une première pour ça. C'est également l'acteur de The Night Of, Riz Ahmed, qui est une première personne asiatique à avoir reçu d'origine asiatique à avoir reçu un ce prix-là également. On a Sterling K. Brown qui joue Randall dans la série This Is Us qui a été également récompensé pour son rôle. On a le scénario de l'épisode de Master of None, la saison 2, Thanksgiving, qui est, je crois, le meilleur, en effet, de cette saison-là, qui récompense ces deux scénaristes qui sont également deux personnes de couleur. et donc, voilà, il y a une grande insistance là-dessus, cette cérémonie-ci sur le fait qu'ils ont vraiment apparemment essayé de récompenser le plus possible des gens d'horizons divers, ce qui est probablement une bonne chose, un pas dans la bonne direction, etc. Même si, malgré tout, certains ont souligné, notamment par exemple sur les temps qui étaient impartis aux uns et aux autres, que on pouvait voir des différences et que, par exemple, une personne comme Nicole Kidman continuait à avoir un traitement de faveur par rapport à d'autres personnes récompensées. Bon, sachant qu'évidemment que Nicole Kidman porte l'aura de la star de cinéma que d'autres n'ont pas aussi. Mais voilà, c'est vrai que malgré tout, ça signifie pas que en une cérémonie, l'ensemble des inégalités qui ont existé dans cette industrie auraient été balayées du jour au lendemain, évidemment. Hein, mais voilà, c'est le constat qu'on peut faire, c'est que vraiment, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas. Mais,
et c'était vraiment la première fois, tu as une vision sur les années précédentes ?
C'est pas la première fois, il me semble. Est-ce que c'était l'année passée ou il y a 2 ans ? Je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'on avait beaucoup parlé aussi de la nomination, à mon avis, c'était il y a 2 ans, la nomination de... J'ai évidemment oublié son nom au moment où on en parle, mais l'actrice de How to Get Away with Murder, qui elle aussi, me semble-t-il, était la première actrice noire à être récompensée pour cette catégorie-là, et donc ça avait particulièrement été remarqué et souligné à ce moment-là. Ici, c'est moins dans le fait particulier que dans la masse que on remarque une volonté vraiment d'ouverture beaucoup plus large que simplement dire « Allez, on va en mettre un pour dire qu'on a notre quota coloré dans l'Assemblée, quoi, si tu vois ce que je veux dire. »
Je vois bien, ouais.
Donc voilà, c'est plutôt à ce niveau-là que la cérémonie a été remarquée, avec évidemment toujours les possibilités de critiquer. Alors, quelles sont les séries qui ont été boudées ? C'est aussi intéressant d'en parler. Des séries qui ont été boudées, notamment Westworld, qui n'a rien reçu. Ben non, pas plus que Feud, dont on entend le générique en arrière-plan, qui pourtant était une bonne mini-série également, mais évidemment elle avait Big Little Lies en vis-à-vis, je vais dire, et donc c'était peut-être difficile de surpasser ce raz-de-marée-là. Mais malgré tout, c'était aussi une série qui essayait de traiter de sujets sociaux autour notamment de la condition des femmes dans le Hollywood des années, c'était quoi, 30, je ne sais plus dans quelles années on se trouvait à ce moment-là. On a Fargo et Better Call Saul aussi qui n'ont rien reçu du tout. C'est peut-être moins étonnant, mais Stranger Things n'a rien reçu. Peut-être que ça devient vieux maintenant et que donc on a déjà oublié qu'on avait bien aimé cette petite série-là. Plus dommage, je trouve, vu que c'était sa dernière saison et qu'elle a fini par nous quitter sans faire beaucoup de bruit, c'est American Crime qui a terminé avec sa troisième saison cette saison-ci et qui n'a remporté aucun prix. Alors que la troisième saison, même si elle est moins affectivement prenante que la deuxième, parce que justement elle traite peut-être de sujets plus vaste, avec des ramifications sociales, économiques, beaucoup plus complexes que simplement la question d'un adolescent dans un lycée. Mais ça aurait quand même mérité d'être davantage mis en avant que ça l'a été, me semble-t-il. Bon, certains autres vont au contraire plutôt critiquer le fait que The Leftovers n'ait jamais rien reçu, mais tu sais que moi personnellement ça m'empêche pas de dormir, donc voilà, chacun ses goûts à ce niveau-là. Donc voilà, ce sont ceux qui ont été boudés, probablement parce que la compétition a été très très rude, donc avec les deux plus gros vainqueurs de la soirée, c'était The Handmaid's Tale et Big Little Lies, qui sont deux séries que je conseille absolument, hein, dont on avait déjà parlé précédemment, mais je réitère mon avis positif à ce sujet-là.
Parfait. Ben voilà pour le palmarès des Emmy Awards.
Oui, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, hein, mais on va pas non plus y passer la soirée. On va s'écouter un peu de musique.
C'est une très bonne idée.
Oui, alors on va s'écouter Lady Marmalade de Patti LaBelle, entendu dans Close.
Go. Hey. avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Kimchi, kimchi, ya, ya, da, da. Kimchi, kimchi, ya, ya, here. Mocha, chocolate, ya, ya. Kimchi, kimchi, ya, ya,
here. La suite de Sarifolie. Avec le sujet du jour abordé par Aurore notamment, et écouté religieusement par moi-même, et les auditeurs, évidemment.
Oui, sauf que on peut aussi interagir.
On peut essayer de débattre,
pas,
oui, c'est possible.
C'est pas interdit du tout, oui. Donc, comme je l'avais annoncé dans la première partie, on va parler aujourd'hui du rôle social des séries, et surtout, est-ce que c'est un critère critique suffisant pour dire qu'il s'agit d'une bonne ou bien au contraire d'une mauvaise série? Est-ce que les séries qui n'abordent pas des sujets graves sont forcément moins bonnes que celles qui abordent ces sujets? Et est-ce que aborder un sujet grave, c'est forcément la garantie de d'être une bonne série? Ben, déjà rien que dans la manière dont je le formule, on se doute bien que c'est probablement pas aussi simple
c'est
que ça.
C'est pas si évident.
Hein. Bon, alors pour aborder cette question, je me suis posé simplement la question en trois aspects.
Oui.
Oui, exactement. La première, c'est est-ce que c'est un critère valide? Est-ce que la question de la série est-elle politiquement ou au minimum socialement importante pour la société dans son ensemble? Est-ce qu'elle apporte un plus? Est-ce que c'est un argument valide pour dire que, ben oui, cette série a un intérêt critique pour ça? Est-ce que c'est un critère suffisant pour justifier le fait que ce soit une bonne série? Et puis, est-ce que c'est un critère nécessaire pour avoir une bonne série? Voilà les trois questions que je me pose. Donc, la première, est-ce que c'est un critère valide? Alors, il y a très 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 longtemps, non pas dans une galaxie lointaine, mais pas loin de là, j'avais commis un petit article sur justement quels étaient les critères sur lesquels on pouvait espérer baser notre critique sérielle. Uh-huh. Et parmi ces critères, alors il y avait évidemment il y avait l'intrigue, il y avait les personnages, il y avait ce qu'on a à faire à un univers, et il y avait aussi la question de la forme, autant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la réalisation, enfin tout ce qui est plus artistique, esthétique, etc. Et le cinquième critère que j'avais donné, c'était la question du propos. Est-ce que la série pose un propos intéressant? Eh bien, quelque part, cette question du propos, c'est exactement ce cinquième critère, c'est exactement la question du rôle social, de l'utilité sociale. Alors, j'imagine que on pourrait en avoir une compréhension beaucoup plus large que simplement cette vision-là, mais ça en fait partie, au minimum. Poser des questions importantes à la société contemporaine, participer tout simplement aux débats, aux différents débats qui traversent nos quotidiens, nos démocraties aussi, hein, bêtement. Il paraît que la démocratie, c'est le débat. Les fictions, à leur manière, y participent également et nous appellent peut-être aussi à y participer. Et donc, est-ce que ça peut être un critère valide pour dire que c'est une bonne série? Oui, il me semble que ça peut être un critère tout à fait valide, pour la simple et bonne raison que le fait qu'une série nous interpelle, le fait qu'une série nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, à réfléchir sur la manière dont nous fonctionnons, ou au contraire dont la série fonctionne à travers nous, j'ai envie de dire, comment parfois, presque malgré nous, nous adoptons certains comportements sans forcément trop comprendre pourquoi, etc. Tout ça, ça peut être évidemment extrêmement intéressant à explorer à travers la fiction, parce que justement, la fiction va permettre de nous montrer des personnages qui sont des vrais pantins entre les mains d'un mécanisme qui est plus fort que nous. Pendant qu'on est soumis à toutes ces contraintes sociales, on n'en est pas forcément toujours conscient, parce que je crois qu'on est tous on a tous tendance à nous imaginer plus autonomes et plus responsable de nos actions que nous le sommes vraiment, tout simplement parce que généralement on agit, on décide quand même de mettre un pied devant l'autre, donc on a l'impression de maîtriser plus ou moins ce qu'on fait, et on a tendance aussi à du coup moins voir ce qui parfois peut nous influencer en cachette, quoi, inconsciemment. Donc voilà, ça me paraît être la première chose.
La première réponse, donc là, la réponse est clairement oui, c'est valide, tout à fait.
Voilà, exactement. Ça l'est valide pour n'importe quel autre sujet. Par exemple, je sais pas moi, une série qui nous permettrait de plonger dans la psychologie d'un psychopathe, par exemple, ça peut être intéressant pour le seul fait de pouvoir justement explorer cette psyché-là, cet esprit dérangé-là. Et donc, il n'y a pas de raison que les questions sociales ne fassent pas partie aussi des sujets qui rendent une série intéressante.
Voilà. Bien, on le reverra plus tard, ce n'est pas nécessairement obligatoire non plus.
Ah, c'est la deuxième question.
C'est la deuxième, je crois que c'était la troisième. Mais donc, critère valide, oui, pour avoir une bonne série, voilà.
Voilà, est-ce que c'est nécessaire?
Voilà.
Est-ce que avoir un propos social, avoir une vraiment portée un message sur un sujet lourd et d'actualité, est-ce que c'est nécessaire pour avoir une bonne série? Alors, je crois qu'il faudrait vraiment occulter déjà beaucoup de séries.
Du divertissement déjà. Oui.
Oui.
Mais même déjà toutes celles qui divertissent simplement, sans se prendre la tête.
Oui, mais enfin, tu sais très bien que souvent, il y a une sorte de snobisme critique qui va dire « Oui, mais ce ne sont pas vraiment des bonnes séries. » Et donc, ça justifierait le fait que il y a les bonnes séries qui, elles, rempliraient ce critère-là nécessairement, et puis les mauvaises séries qui seraient les séries de divertissement. Mais c'est peut-être un petit peu trop facile de présenter les choses comme ça, parce que même si on ne révolutionne absolument pas notre point de vue sur les femmes, sur les personnes de couleur, sur les handicapés, sur les homosexuels ou que sais-je encore, plein de sujets évidemment extrêmement importants à aborder. Il y a tout à fait moyen de suivre une série sur un homme blanc, hétérosexuel, et qui n'a absolument aucun handicap, et que cette série soit quand même une très bonne série. On peut regarder par exemple l'exemple de Breaking Bad. Est-ce que Breaking Bad devient automatiquement une mauvaise série parce que c'est pas une série qui va particulièrement insister sur la condition féminine, la condition des personnes de couleur, ou etc. etc. Tu vois ce que je veux dire,
hein? Tout à fait.
Donc il serait un petit peu trop expéditif de commencer par rejeter en bloc toutes les séries qui ne remplissent pas ce critère-là. Comme je l'ai dit, justement, la question du propos peut être beaucoup plus vaste que simplement cette question-là de l'utilité sociale de représenter la diversité de la population, etc. Donc, ça, c'était la deuxième question. Est-ce que c'est un critère nécessaire ? Eh bien, non, c'est pas forcément un critère nécessaire. Il y a moyen de faire de bonnes séries sans aborder ces sujets-là. Même si, si on pense par exemple à Breaking Bad, il n'aborde pas ces sujets-là en particulier, mais il va peut-être aborder d'autres sujets comme la place de l'argent dans la société américaine, la dégradation des conditions de vie de la classe moyenne, etc. Donc ça signifie pas qu'il y a pas de propos dans Breaking Bad, simplement il y a d'autres sujets qui sont abordés que ceux qui sont pour le moment mis en avant, quoi.
Oui.
Enfin, troisième question, est-ce que c'est un critère suffisant ? Est-ce que le fait d'aborder la condition féminine ou n'importe quel autre sujet actuellement sur la table des nombreux créateurs de séries suffit à faire une bonne série ?
Bonne question.
Je t'avouerai que c'est une très bonne question dans la mesure où autant j'ai envie de te dire forcément non, tu vois, et on pourrait très bien imaginer une série qui aborde ce sujet-là mais qui a des acteurs absolument désastreux, une réalisation moche à crever, qui est écrite avec les pieds ou que sais-je encore. Il y a plein d'autres critères qui pourraient faire que la série est totalement ratée. Et en même temps, j'ai pas d'exemple en tête. Ce qui peut être étonnant. Alors c'est peut-être juste que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes et qu'il y en a plein qui ne sont pas arrivées jusqu'à moi tellement elles étaient mauvaises. C'est très probable, hein, à mon avis, ça doit être une partie de l'explication. Mais peut-être aussi que quelque part cette exigence-là de l'utilité sociale de la série est l'exigence qui arrive en bout de course une fois que les créateurs ont déjà pensé à tout le reste, et que du coup ça permettrait d'avoir une qualité particulièrement élevée pour ces séries-là, parce que elles sont créées par des personnes particulièrement déjà intégrées dans l'industrie télévisée américaine, et particulièrement au courant des enjeux qu'il serait important d'aborder, comment les aborder, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, je reste dans l'hypothèse pure de tiens, pourquoi j'ai pas d'exemple en tête, je sais pas exactement. Je sais pas si toi, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, mais
non.
C'est assez compliqué, quoi. Même si, par exemple, je me souviens d'une série qui quelque part partait du même postulat que The Handmaid's Tale, c'est-à-dire on était dans un monde un peu futuriste dans lequel les femmes en grande majorité étaient stériles également. C'était une série qui s'appelait The Lottery, qui date d'il y a quelques années et qui était clairement une série qui n'avait pas beaucoup de moyens et qui donc, même si elle abordait la même question de qu'est-ce qui arriverait dans une société dans laquelle il serait de plus en plus difficile d'avoir des enfants, avait beaucoup moins de moyens pour explorer cette question-là. Mais en même temps, elle l'abordait aussi de manière beaucoup moins fine et beaucoup moins consciente de tout ce qui pouvait rentrer en jeu. C'était beaucoup plus sur le mode d'une, si je me souviens bien, d'une forme de concours qu'il y avait entre les femmes. C'était une loterie, justement, où les femmes devaient participer pour avoir le droit, ultimement, peut-être, à porter un enfant, me semble-t-il. Je ne me souviens plus exactement. Mais bon, je me souviens que la série n'était pas excellente, même si l'idée de départ était bonne, quoi. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y en ait un certain nombre, mais qu'on n'en ait pas forcément connaissance. Bref, donc à la question, est-ce que c'est un critère critique suffisant ? Ben, on va pouvoir répondre malgré tout, non, évidemment. Des critères critiques, il en existe quand même plusieurs autres, ouais. Et ça serait un petit peu limité de se dire « Ah, si ça aborde ce sujet-là, forcément, c'est que c'est une bonne série. » C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Oui, puis comme tu l'as dit, tu n'en as pas identifié beaucoup, mais comme tu rejettes assez rapidement celles que tu n'aimes pas du tout, peut-être qu'il y en a plein dans l'eau qui allaient traiter le sujet de la même manière et que tu ne retrouves pas, quoi.
Oui, sauf que comme je l'ai dit, malgré tout...
Quand c'est ça, ça t'intrigue et tu continues peut-être.
Oui, et aborder ces questions-là, c'est déjà particulièrement éveillé à une certaine sensibilité à la manière de raconter les choses en prenant bien compte de ne pas adopter un seul regard, etc. Enfin, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la conscience des personnes qui sont en train de créer cette série qui fait que malgré tout, c'est généralement les séries vraiment mauvaises ne l'abordent tout simplement pas parce qu'elles n'ont simplement pas. Enfin, elle ne semble pas du tout avoir pris conscience que ces sujets-là sont des sujets à traiter, quoi. Donc, voilà.
Ok.
Voilà, bon, on va passer à la musique. Hein. La musique, c'est « This Love is Over » de Ray LaMontagne and the Paria Dogs. Et c'est entendu dans « The Leftovers ».
My mind, don't even know my own name at the time. How'd I get so blind that I couldn't see what was right in front of me? I wish I was wrong. I wish that you were right here lying on. Deep down inside, I got to face the truth. You're not coming home. This love is over. This love is over. God knows I tried everything I could to keep you satisfied. Been my best is the part you play. It's all some kind of game.
just like a child. Just like a child, you got to have your way. Nothing ventured, nothing gained. There's nothing left to say. This life is over. This love is old. Baby, I know I'll get along. Sometimes you got to make it on your own. It's more than my pride. Hold tight up inside, girl, it's all the line. Think it's time to close the door. I don't wanna cry anymore. It's just not worth the fighting for. This life, it's over. This love. This love is over. This love is
troisième et déjà dernière partie de cette émission Sarifolie, avec le sujet du jour en train d'être théorisé par l'ami Aurore. Elle me regarde là. Mais non, je ne sors pas de théorie. On continue, si tu le veux bien.
Oui, alors c'est pas une théorie ici, hein. On reste dans le léger. Hein.
D'accord, tu peux faire plus fort, toujours plus haut.
Après s'être donc posé la question du critère critique, on va se demander finalement qu'est-ce qu'on met en avant quand on parle de rôle social d'une série, quels sont les sujets qui sont utilisé et mis en avant pour le moment, pourquoi est-ce que ce sont ces sujets-là et surtout comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'ils soient davantage d'actualité. Alors, la première chose, c'est qu'on peut quand même constater que actuellement, on se trouve dans une situation, alors j'imagine que c'est en Occident en général, je ne sais pas si c'est le cas aussi dans d'autres cultures et coins géographiques, mais au minimum dans la culture dans laquelle nous nous trouvons, on peut quand même fort constater ça, c'est un grand besoin de la part des individus, un grand besoin d'être reconnu dans leur individualité, justement, dans leurs expériences personnelles, qui s'explique peut-être par la peur d'être totalement perdu dans la masse. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais... là aussi, ça date peut-être d'il y a un petit temps. J'avais quand même avancé l'idée selon laquelle, mais la raison pour laquelle les zombies avaient autant la cote pour le moment, c'était justement parce que on vivait une époque où la peur d'être emporté par la masse anonyme était extrêmement prégnante dans notre psyché. Psychologie collective, notre inconscient collectif, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il y a cette peur-là qui conduit à un besoin, donc comme je l'ai dit, de reconnaissance. Et du coup, eh bien, quand on parle de séries, comme forcément on a affaire à des images et qu'on a affaire à des personnages qui bien souvent, dans lesquels bien souvent on va transposer les besoins du public de s'identifier, eh bien il va y avoir une grande demande de représentativité d'une majorité de situations différentes, quoi. Pendant longtemps, je crois que les fictions en général ont pu fonctionner sur un mode extrêmement archétypique, c'est-à-dire nous présenter simplement des personnages qui pouvaient convenir à peu près n'importe quel être humain, quoi. C'était des grands archétypes dans lesquels tout le monde pouvait se retrouver d'une manière ou d'une autre parce qu'ils étaient simplement porteurs d'une problématique particulière, que ce soit par exemple, je sais pas, la problématique du destin chez Édipe, ou bien la problématique, enfin je vais pas donner encore d'autres exemples parce que là, à mon avis, je vais commencer à
perdre. Tu vas perdre du monde, oui.
Tu vois ce que je veux dire, quoi. Que ce soit dans la mythologie, que ce soit dans les textes religieux aussi, que ce soit dans les contes et légendes, pendant très longtemps, j'ai l'impression que la fiction s'est contentée du personnage en tant qu'archétype, nous représentant simplement des problématiques humaines, tu vois, en général. Mmh. Et là, pour le moment, on est dans un mode où on demande à nos fictions, au contraire, non plus de nous représenter des archétypes, parce qu'on s'est rendu compte finalement que ces archétypes-là, bien souvent, nous étaient présentés toujours sous une même forme qui est, selon la formule consacrée, plutôt blanche, plutôt hétérosexuelle, plutôt masculine, etc. Bon, tu connais la chanson aussi bien que moi, à force. Et donc, il y a eu de plus en plus de revendications qui se sont fait jour en disant, finalement, c'est bien beau, cette idée que, soi-disant, on a affaire à des archétypes neutres au niveau des individus, parce qu'ils pourraient représenter n'importe qui, sauf qu'en réalité, bah, il y a certains qui sont quand même beaucoup plus représentés que d'autres quand on y regarde de plus près, quoi. Et donc, il y a une volonté de plus en plus nette de la part de toutes sortes de personnes qui se sentaient moins représentées, de revendications, d'être vraiment reconnues dans leur, ne serait-ce que physiquement, dans leur identité physique propre, par exemple au niveau de la visibilité des personnes de couleur ou bien des personnes handicapées, etc. Même si, évidemment, sur tous ces sujets-là, on est loin d'avoir fini la révolution qui se veut en marche. C'est aussi, ça va passer par quoi ? Ben, ça va passer par qui crée les séries, qui, et c'est-à-dire aussi quelle est la voix qu'on entend. Évidemment, si l'archétype a été créé par toujours le même type de personne, et étonnamment, cet archétype-là va toujours faire entendre le même type d'expérience de la vie. Et donc, il y a une manière de dire, ben, finalement, si on donnait l'occasion à des personnes différentes, entre guillemets, de créer leur propre archétypes qui finalement ne le sont plus, ou en tout cas on pourrait du coup créer une nouvelle idée de ce que peut être un archétype, eh bien peut-être que ça permettrait aussi à d'autres personnes qui jusqu'ici ne s'y reconnaissent pas de recommencer à se reconnaître dans tous ces personnages-là. Et puis évidemment il y a la question de la thématique. À partir de quel moment on va pouvoir parler de certains sujets qui ne concernent qu'une partie de la population. Souvent, quand il y a la volonté d'avoir un archétype, ben forcément, on est censé vouloir parler à tout le monde. Et du coup, ça met de côté toutes les problématiques du genre discrimination qui ne concernent... Enfin, qui en tout cas ne discrimine qu'une partie de la population, même si ça concerne tout le monde, vu que les autres sont peut-être les discriminateurs, hein. Mais en tout cas, il n'y en a qu'une partie qui sont vraiment dérangées par la situation, les autres, à la limite, ne voyant pas le problème, quoi. Et donc, mais forcément, à partir de quel moment est-ce qu'on peut estimer que mettre ces thématiques-là sur le devant de la scène, ça peut aussi concerner tout le monde, quoi. Donc ça c'est aussi une manière d'essayer de mettre ces revendications égalitaires là en avant. Donc pour le moment, probablement pour les raisons que j'ai expliquées, c'est sous cette forme là que le rôle social de la fiction et donc des séries se montre. Ça ne signifie pas, me semble-t-il, qu'on ne pourrait pas envisager une autre manière pour les fictions de tenir un rôle social. On pourrait très bien imaginer que les séries prennent à bras le corps une manière de parler de moins par exemple des individus et peut-être davantage des modes d'action en commun. Et donc qu'elle nous montre des collectifs en train de se former, des collectifs en train d'interagir, en train d'imaginer des actions, etc. On pourrait très bien imaginer aussi des séries qui prennent à bras le corps les croyances des uns et des autres et essayer de retravailler aussi toute la question des croyances, des convictions, des religions, etc. Enfin, je veux dire par là que pour le moment, on est très axé sur quelques sujets, mais le rôle social, ça pourrait être aussi beaucoup d'autres choses. La dernière chose que je dirais, c'est que ben, finalement, on peut toujours craindre, il y en a peut-être certains qui en ont marre, qui se disent « oui, bon, les séries comme ça, ça commence à bien faire, il serait temps de revenir à la bonne vieille série divertissante et uniquement divertissante ». La seule chose que j'aurais envie de répondre à ça, c'est que c'est une distinction très artificielle de dire d'un côté, il y aurait les séries sérieuses qui abordent des sujets qui changent vraiment le monde, et puis de l'autre, il y aurait les séries divertissantes et qui nous vident la tête, quoi. En réalité, une série, je crois, n'a vraiment d'impact et ne change véritablement le monde que si elle arrive à totalement nous immerger et donc à être en partie aussi divertissante, quoi. Donc voilà.
Oui, celles-là aussi nous divertissent.
Voilà, exactement.
Ce sera le mot de la fin. Voilà, merci Aurore pour cette belle émission une nouvelle fois. On va pouvoir la retrouver en podcast très bientôt sur l'internet, notamment via le site internet www.serifolie.be. Les réseaux sociaux relayeront l'information. Et puis pour notre part, eh bien on se retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien.
Je le veux bien.
On va se quitter en musique.
On se quitte avec Head Over Heels de Tears for Fears, entendu dans Glow.
À la semaine prochaine, Aurore.
À la semaine prochaine.